Et avec Léa Salamé, nous recevons aujourd'hui dans le grand entretien du 7-9 un philosophe qui publie un livre parfois drôle, écrit en réaction rapide à l'épidémie du Covid-19. Le titre, Ce virus qui rend fou, c'est publié chez Grasset. Question, réaction, amis auditeurs, au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Vous aurez la parole dans 10 minutes environ. Bernard-Henri Lévy, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être ici même en studio à France Inter. Ce livre, Ce virus qui rend fou, est le fruit d'une sidération et d'une colère. Vous l'écrivez d'emblée, je vous cite. J'ai été sidéré, moi aussi, mais ce qui m'a le plus sidéré, ce n'est pas la pandémie, car cette sorte de désastre existe de tout temps. Et là, vous citez d'autres pandémies, grippe espagnole de Hong Kong, grippe asiatique, et vous reprenez. Non, le plus saisissant, c'est la façon très étrange dont on a cette fois-ci réagi. En clair, vous avez l'impression qu'on est tous devenus fous. Expliquez-nous pourquoi.
J'ai l'impression, oui, qu'il y a eu une sorte de mondialisation de la peur. Ce qui est très énigmatique, c'est la façon dont, à la seconde, une épidémie de terreur s'est abattue sur le monde. Ça ne s'est jamais produit. Et il y avait là quelque chose de, à la fois de déraisonnable et d'effrayant. Et oui, voilà.
Oui, on va voir, vous allez nous montrer, enfin, vous prouvez dans ce livre ce qui vous semble assez fou et cette épidémie de terreur dont vous parlez. Mais, et puis les conséquences sur la démocratie quand même, c'est ça qui est très important dans le livre. Mais tout de même, vous n'avez rien vu de positif, Bernard-Henri Lévy, rien vu de vertueux à cette crise. Vous ne trouvez rien à sauver dans ces trois mois inédits de l'histoire du monde?
Pas grand chose, franchement. Contrairement à beaucoup, je trouve que les villes vides, c'est pas beau. Je pense qu'il n'y a pas de beauté dans les villes vides. Je pense que rester chez soi, c'était sûrement, évidemment, utile pour des raisons sanitaires, mais que c'est pas une vertu. On peut pas dire aux gens, pour être solidaire, on peut pas leur dire durablement, il faut rester chez vous. Je pense que couper nos relations avec le reste du monde, et notamment le monde pauvre, le monde des déshérités, le monde des damnés, je crois que c'est extraordinairement dangereux. Je pense que dans cette injonction qui nous a été faite d'être solidaires en interrompant, en arrêtant le cours du monde, il y avait quelque chose qui n'était pas sympathique.
Mais enfin, au début de l'épidémie, avant le confinement, certaines projections parlaient de plusieurs centaines de milliers de morts, rien qu'en France, si le pays n'était pas confiné. On parlait de la saturation du service de réanimation des hôpitaux. On avait les images terribles des hôpitaux italiens où les gens mouraient sur des brancards. Oui. Il fallait rien faire?
Bien sûr que si, c'est la raison pour laquelle je vous dis... Sanitairement, il fallait bien sûr qu'il fallait les gestes barrières et il fallait cesser de se serrer la main et ainsi de suite. Le vrai problème, c'est que les gens se soient confient dans ce confinement. Vous voyez, moi ce qui m'a le plus troublé, c'est pas tellement qu'on respecte les règles, mais c'est cette incroyable docilité, c'est cette façon dont on a accepté l'idée que ce fameux silence des organes, qui est la définition de la santé selon Valéry et d'autres, ça soit comme une espèce de silence de couvre-feu et de mirador. Il y a eu quelque chose là qui m'a semblé extrêmement malsain. La poignée de main. Bien sûr qu'il ne faut pas se serrer la main dans ces temps-ci. Mais par exemple, quand j'entends certains médecins, Anthony Fauci aux États-Unis, dire « le serrement de main, ça ne reviendra plus », c'est monstrueux. Se serrer la main, c'est un geste de fraternité, c'est un geste républicain, c'est un geste de solidarité. Le masque, il fallait le masque pendant ces semaines, mais il fallait le porter en râlant, il fallait le porter en sachant que un visage masqué, c'est pas tout à fait un visage, que c'est le contraire du rapport à autrui, que c'est le contraire là encore de l'éthique, c'est le contraire de la politique, c'est le contraire de toutes ces valeurs républicaines auxquelles nous tenons tellement.
Vous citez longuement Michel Foucault, l'emprise du pouvoir médical sur les sociétés, les individus, la volonté de les contrôler à travers le savoir, à travers le soin. Vous dites, jamais les choses n'étaient allées aussi loin. Jamais un médecin ne s'était invité chaque soir dans les foyers pour annoncer, telle une pitié triste, le nombre des morts de la journée. Jamais l'on n'avait vu, comme en Europe, des chefs d'État s'entourer avant de parler d'un ou de plusieurs conseils scientifiques. Comment expliquez-vous, Bernard-Henri Lévy, cette soumission du politique au médical, en tout cas les premières semaines?
Oui, pendant de longues semaines. Discrédit de la parole politique, volonté de se relégitimer auprès d'un supposé savoir, mais aussi un abus d'autorité incroyable. Ces médecins qui passaient leur temps à nous faire la leçon à la télévision, pardonnez-moi, mais moi, à l'oreille, j'entendais l'abus d'autorité. Et là, la leçon de Michel Foucault est implacable. Ce pouvoir médical, ça fait des siècles qu'il se cherche. Ça fait des siècles ou deux siècles, depuis l'âge classique, trois siècles, qu'il tente de s'imposer. Et là, c'est vrai qu'il a failli triompher. Le pouvoir des experts, non. La République, c'est pas le pouvoir des experts. La République, c'est le pouvoir des politiques. La République, c'est pas l'hygiénisme. C'est pas le pouvoir des médecins qui transforment la politique en clinique, qui font la chasse au virus. La politique, c'est autre chose. C'est des choix, c'est des redistributions, c'est des arbitrages. Ça n'est pas le pouvoir médical. Donc il y a eu quelque chose, oui, là aussi, dans cette façon dont nous avons tous accepté, à commencer par vous, les journalistes, notamment dans les chaînes d'information en continu, mais nous aussi les spectateurs, dont nous avons accepté cette prise de pouvoir par ces médecins, dont les meilleurs d'entre eux d'ailleurs savaient que c'était absurde. Ils étaient embarrassés de ce rôle, parce que les médecins, ils savent qui sont pas d'accord les uns avec les autres. Ils savent que la médecine n'est que très partiellement une science exacte. Ils savent que la médecine, c'est plein de querelles, que c'est encore pire que la philosophie. Ils savent très bien.
Oui, d'accord, mais vous parlez de la docilité ou de notre servitude volontaire, oui, notre capacité à accepter ce confinement et à être confit de ce confinement.
Oui.
Mais est-ce que ce n'est pas dû simplement à la peur? Vous oubliez le sentiment presque banal de la peur de voir de mourir, la peur de voir ses proches mourir, la peur de mourir seul, la peur de ne pas être soigné. C'est pas un sentiment honteux, c'est pas un sentiment obscène, la peur, surtout non, quand le président de la République, pardon, sur sa première intervention, dit six fois qu'on est en guerre.
Oui, oui. Eh ben, je pense que le président de la République a eu tort de dire qu'on était en guerre. Je pense que les médecins et un certain nombre de médias ont eu tort de nous entretenir dans ce climat de peur. Et je pense que la peur est mauvaise conseillère. Il y a une distinction dans la psychanalyse, chez Freud et chez Lacan, entre l'anxiété et la peur en politique. La peur, la panique, elle est toujours mauvaise conseillère. Et la responsabilité des politiques, des intellectuels, des esprits critiques, c'est au contraire de réduire la peur. Un exemple. Il y avait... On a vécu, c'est au-delà de la peur, on a vécu pendant toutes ces semaines dans un monde parallèle, où en vérité, il n'y avait plus que le Covid. Il y avait la guerre en Syrie, il y avait la faim dans le monde, il y avait les réfugiés de Lesbos, il y avait tant d'autres événements. Ces événements-là n'existaient plus. Vous savez, le fameux mot de Louis XVI, le 14 juillet 1789, rien, ben là... Avril 2020, rien. Mai 2020, rien. Il ne s'est plus rien passé. Nous avons accepté de vivre dans cet univers parallèle où l'histoire était censée se mettre en grève de la même manière que nous avions mis la mondialisation sur mode stop. Et tout ça, en effet, sous l'effet de cette peur que je comprends, bien sûr, mais qu'il fallait, qu'il était de la responsabilité des politiques, des médecins et des autres, de réduire, oui, bien sûr.
Vous le dites, hein, effectivement, dans ce livre, pendant ces trois mois, on a tout oublié. On a oublié les réfugiés, on a oublié Daesh, on a oublié le Yémen, on a oublié la misère, on a oublié la marche du monde, tout ce qui n'était pas l'épidémie. Et on n'a plus pensé qu'à sa bulle d'hygiène. En fait, est-ce que vous redoutez la réduction du monde au gel hydroalcoolique et à Netflix? C'est-à-dire, j'ai les mains propres, ma porte est fermée, après moi le déluge.
Moi, je redoute la réduction du monde d'abord à soi. C'est-à-dire, il y a eu, ça aussi, on l'a entendu beaucoup dans les journaux de confinement, dans Télérama et ailleurs, l'idée que la principale injonction, c'était de se retrouver, de revenir sur soi, de retrouver sa propre vérité. Je suis désolé, mais je suis pas d'accord. Je crois que être un humain, c'est pas revenir sur soi et chercher sa vérité, c'est aller vers les autres et essayer d'entendre un peu de la vérité d'autrui. C'est ça, toutes les sagesses nous disent cela. La sagesse grecque qui dit que l'homme est un animal politique, la sagesse juive qui dit que ce qui est intéressant c'est le rapport à autrui, la phénoménologie en philosophie qui dit que ce qui est important c'est l'intentionnalité. Donc déjà, cette injonction de revenir sur soi, de cultiver sa majesté, le soi, Elle avait quelque chose de terriblement égoïste, premièrement. Et deuxièmement, corrélat de cela, je redoute un monde, en effet, barricadé, avec ses gels hydroalcooliques, avec ses chiens labrador dressés, c'est une des dernières nouvelles, à renifler les porteurs de Covid. Je me demande bien à quelle odeur et à quel parfum on les reconnaîtra. Ce monde,
on n'a pas la même truffe.
Ce monde de maîtres chiens, où nos maîtres seraient des chiens et nous traiteraient comme des chiens, c'est vrai que je l'ai vu se profiler et que j'en ai une peur bleue.
Vous écrivez d'ailleurs, il y a une phrase qui m'est devenue insupportable, c'est la citation de Pascal, « Bégayer jusqu'à la nausée, tout le malheur des hommes vient de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre ». Vous n'en pouvez plus l'entendre cette phrase, c'est vrai qu'on l'a utilisée à...
Oui, je n'en peux plus pour deux raisons.
Ad nauseam, pourquoi est-ce qu'elle vous énerve ?
Mais pour deux raisons, parce que les gens d'abord ne savent pas lire une phrase jusqu'au bout. Dans cette phrase, Pascal disait que cette expérience de rester chez soi sans divertissement, il disait pas que ça consistait à faire des plats cuisinés qu'on allait mettre sur Instagram ou à faire de la pâte à modeler. Il disait que c'était une expérience douloureuse, une épreuve terrible, que c'était l'expérience du rien, que c'était quelque chose d'effroyable. Premièrement, c'était pas une jouissance, c'était pas pour Pascal. Et deuxièmement, il y a autre chose que dit Pascal, c'est que le moi est haïssable, que le repli sur le soi n'est pas une vertu. Et jamais Pascal n'aurait endossé cette idée que chacun devait, à sa place, derrière son balcon, où nous daignons à 20h aller applaudir les soignants avant de dénoncer notre voisin parce qu'il était allé deux fois à la supérette, ou avant d'aller dénoncer le papy qui était allé juste acheter du papier toilette. Jamais il a dit que cette vie-là était une vie enviable. Donc cette phrase-là...
Donc en fait, vous dites, on est devenu nombriliste, on est devenu peureux, on est devenu craintif, on est devenu niais, avec plein de niaiseries, c'est ça que vous dénoncez ?
Et on est devenu délateur, oui. Pour moi, il y a
On pourrait dire qu'on a été devenu...
Civique.
Vous apporte la
ouais,
civique, responsable, solidaire.
Il y a eu des actes de civisme, bien sûr, mais il y a eu aussi derrière cette réalité-là, il y a eu un incivisme grandissant, parce que le civisme, c'est pas de s'enfermer, c'est pas de jouir de rester chez soi, c'est pas... Par exemple, l'histoire du télétravail, l'histoire du téléenseignement, l'histoire du télémachin, tout ça, c'est peut-être très bien, mais je pense que c'est une des tendances les plus redoutables du monde moderne. Moi, j'aime le contact. Je pense que les humains sont faits pour se rencontrer. Ils sont pas faits pour se connaître, pour commercer à distance comme des zombies à travers des écrans. On est tous en train d'accepter de devenir ces zombies commerçants intellectuellement à travers des écrans. Ça non plus, ça s'appelle pas le civisme. Le civisme, c'est quand même une agora. Ouais. Alors, si tout ça est provisoire, c'est parfait. Moi, j'ai écrit ce livre parce que je crains que ces mesures qui nous sont présentées comme des mesures sanitaires d'urgence et provisoires deviennent, comme souvent, définitives. C'est comme les lois sur le terrorisme. Mmh. On nous dit, c'est juste pendant quelques mois pour... Et puis après, c'est beaucoup...
On les intègre
dans le droit
commun.
Après, c'est extrêmement difficile de les retirer. Voilà. Donc, j'ai peur qu'il y ait là un nouveau mode d'être à la cité qui tourne le dos à ce que toutes les sagesses républicaines nous enseignaient et qui s'installe dans la durée.
Et puis il y a une autre chose qui vous a particulièrement énervé, Bernard-Henri Lévy, ce sont les émerveillés du confinement. Je vous cite, j'ai trouvé de plus en plus pénible à entendre les propos émerveillés sur le thème. J'ai vu un daim traverser les Champs-Élysées, une mésange à ma fenêtre, le ciel n'a jamais été si bleu, ni la nature si pure, ni la ville si belle qu'au temps du coronavirus. Fin de citation. Mais n'est-ce pas vrai, tout simplement? Qu'est-ce qui vous a énervé dans ce réveil de la beauté du monde?
Et de la nature.
Et de la nature. Oui, l'eau était plus pure et, oui. On respirait mieux.
Ce qui m'a énervé, c'est l'implicite de ce genre de déclaration. Et l'implicite, pardon, mais c'est que le virus, c'est l'homme. L'implicite, c'est que les hommes, dans les villes et sur la planète, sont en trop, sont en surnombre. Et que la planète est tellement plus belle quand il n'y a pas d'homme. Vous savez, je termine mon livre avec le double sens du mot « monde ». Hein, pour un latiniste, « monde », ça veut dire deux choses. Il y a le monde où on va vers les autres, il y a le monde du sans-frontiérisme, il y a le monde des droits de l'homme. Et puis, en latin, « monde », ça veut dire aussi « propre »,« mundus », »,« propre », »,« aseptisé », »,« hygiénisé », avec le moins possible de cette impureté, de cette corruption, de cette saleté que sont les hommes réels. Dans ce genre d'histoire, les gens qui disaient « la ville vide, j'ai vu une mésange à la fenêtre », eh bien, il y avait comme un relent de cette idée qu'il est beau le monde quand il n'y a plus d'humains. Ben non, moi j'aime le monde quand... Alors après, il faut le réparer, il faut le réformer, il faut le changer. Moi, ça fait 50 ans que
L'humain le détruit, et même souvent.
Parfois l'humain le détruit. Naturellement, bien sûr, il faut donc s'insurger contre cette tendance qu'ont les hommes à détruire leur propre monde. Mais un monde sans humain, cela me semble une vision de cauchemar. Et franchement, ce Paris, j'ai passé toute cette période de confinement à Paris. Je n'ai pas bougé, quasiment
pas. Vous n'êtes pas allé à la maison de campagne?
Je ne suis pas allé à la campagne. J'ai fait un reportage au Bangladesh, un reportage à Lesbos à la fin. Mais J'ai détesté Paris vide. Voilà. Moi, j'aime le bruit de la voix humaine, comme disait un grand écrivain.
Avant de prendre un auditeur, une question sur le professeur Raoult. Quelques lignes, vous consacrez quelques lignes au professeur Raoult, Bernard-Henri Lévy. Là où on vous aurait imaginé volontiers du côté de Paris, ou disons du système mandarinal, non, vous avez une position neutre, en attente, peut-être même un poil admiratif pour le professeur Raoult. Pourquoi? Pour quelle raison?
Je suis un poil exaspéré par la façon dont chacun a instrumentalisé cette pandémie. C'est surtout ça. La façon qu'ont eu tant de gens de se jucher sur les morts, les agonisants et les malades pour pousser leur avantage et pour pousser la chansonnette. Alors, les uns, leur théorie populiste, les autres, leur histoire de monde d'après, j'ai trouvé ça dégueulasse. Parmi les choses vraiment qui m'ont insupporté pendant ces mois-là, c'est l'idée que le virus avait un message. Au fond, voilà, si je devais résumer ce livre, c'est un livre qui essaye de dire aux lecteurs, un virus, ça parle pas. Un virus, il n'y a pas un radiovirus qui nous adresserait des messages. Et profiter du virus...
Il n'y a pas d'interprétation à avoir
pour
du virus.
Pousser, non, pas interprétation, oui, mais utiliser le virus pour pousser un agenda, pour accélérer la venue du monde d'après, tous ces thèmes dont les journaux ont été envahis, je trouve que c'était indécent.
Vous
donc
répondez
la polémique
pas sur
autour
Raoult.
De Raoult, ouais. La polémique autour de Raoult, c'est la même chose. Les gens se sont emparés de cette... Moi, je connais la chloroquine, je suis un vieux paludéen. Donc je sais ce que c'est que ce médicament. Évidemment, c'est un médicament qui a sûrement des effets secondaires. C'est aussi un bon médicament qui m'a sauvé la vie il y a 50 ans.
Là, c'est pas la question. C'est fallait-il le donner sur le Covid?
Eh bien, oui. Eh bien, on verra. La science tâtonne. La science ne sait pas. Mais en revanche, le spectacle qu'ont donné les médecins à cette occasion, c'est-à-dire ce tintamarre, cette chamaillerie, cette pétarade, et cette pétarade, comme je le dis, à la table du roi, eh bien, c'était l'illustration du pire de ce que je dis sur les exagérations du pouvoir médical.
Elisabeth est au standard de France Inter. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Moi, je suis un médecin hospitalier de province et je pense que toute mort évitable est une mort de trop. Je n'aime pas entendre dire que ce virus n'est pas grave, que cette épidémie n'est pas grave. Et donc, je voulais demander à M. Bernard-Henri Lévy s'il ne pense pas tout de même que le gouvernement a eu raison de placer la vie au-dessus de toutes les autres priorités comme valeur suprême.
Merci Elisabeth pour cette question. Bernard-Henri Lévy vous répond.
Bien sûr qu'il a eu raison de mettre la vie, et ça c'est un progrès, mettre la vie au sommet de toutes les valeurs, naturellement. Mais l'erreur a été d'opposer, par exemple, la vie et l'économie. C'est un faux débat, parce que le chômage, la misère, les émeutes de la faim à Lagos, c'est aussi des morts, vous comprenez ? Là, je raconte dans mon livre comment, par exemple, au Soudan, il y a à peu près, à un moment donné, le 15 avril, il y avait autant de morts par le Covid que de morts par les forces de l'ordre qui shootaient des gens qui s'étaient rebellés contre le confinement. Donc il faut être capable de penser jusqu'à deux. Bien sûr qu'il fallait éviter le maximum de morts du Covid, mais est-ce qu'il fallait pour autant accepter les morts des townships de Johannesburg qui n'avaient pas de chez eux où se confiner, qui sortaient dans les rues parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution et qui se faisaient tirer à vue? Non. Est-ce qu'il fallait accepter qu'il y ait que le nombre de d'hommes, de femmes et d'enfants en malnutrition croisse de manière considérable? Je ne pense pas non plus. Donc il y avait un traitement beaucoup plus complexe à faire de tout cela.
Au fond, votre livre est porté par une question et une inquiétude. Ce virus n'est-il pas le dernier clou dans le cercueil des démocraties occidentales ?
Oui, je crois qu'il y avait quelque chose qui était en chemin, qui était en route et qui est en train de se sceller. En gros, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Nous sommes de plus en plus nombreux dans le débat entre liberté et santé à choisir la santé. Nous sommes de plus en plus nombreux à accepter l'idée selon laquelle on peut renoncer à certains droits pourvu qu'on nous garantisse
la sécurité,
et la santé. Et la longévité. Voilà. Autrement dit, le passage de l'état providence à l'état sanitaire, le passage du vieux contrat social au contrat vital, parce que c'est ça qui se passe. C'est cette page-là qui est en train de se tourner. Je crois qu'il y a là quelque chose de préoccupant. Contrat social, vous me donnez un peu de votre volonté, je vous donne la volonté générale. Contrat vital, vous me donnez une grande partie de vos droits, liberté d'aller et venir, etc. Et je vous donne une garantie supplémentaire de vie. Je crois que c'est pas un bon deal, ce contrat vital.
Question rapide, réponse rapide. C'est Brigitte qui vous la pose sur l'application France Inter. Notre peuple a, pour une fois, fait preuve de grandeur dans sa sobre docilité et sa provisoire soumission. De la part des Français, c'est une preuve de maturité. Que répondez-vous à cette analyse qui est évidemment pas la même que la vôtre?
Non, mais moi, je pense que soumission, j'ai du mal à associer soumission et docilité à grandeur. Alors je préfère le peuple réfractaire et je préfère l'idée d'un peuple râleur. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a eu plus de grandeur chez ceux qui ont accepté les règles en râlant, en rouspétant, en n'y trouvant pas leur compte, en ayant hâte de retrouver le monde. Voilà où est la grandeur, à mon avis. Mais docilité, je crois pas.
C'est publié chez Grasset, ce virus qui rend fou. Merci Bernard-Henri Lévy d'avoir été au micro d'Inter ce matin.